Timbuktu. Alors il nous dit que il peut démontrer en quoi Aristote dérape. Il nous dit que ça se trouve. Mais il ne le fait pas. Il ne le démontre pas. Il nous dit simplement qu'Aristote dérape. Il pourrait le démontrer que ça se trouve dans de l'interprétation. De l'interprétation, alors vous avez ça chez Brun, traduit par Tricot, c'est le premier volume de l'organe. Vous avez un catégorie de l'interprétation. Puis vous avez ça aux belles lettres, c'est bilingue. Ça, en français, et on regarde le texte français, vous avez le texte grec. Bon. Lacan, il dit que Tricot, il dit ça encore, quand il dit. Tricot, c'est quelqu'un qui a pu me faire penser qu'on pouvait traduire Aristote. Tricot, c'est quelqu'un qui a traduit beaucoup. Il a tout traduit, je ne sais pas. Dans encore, il parle de Lacan de l'éduqué diplomate. Et il dit Tricot lui a fait penser que ça pourrait peut-être le traduire. Il comprend quelque chose. C'est ce Tricot qui lui a fait penser ça. Parce qu'il a l'air plutôt pessimiste sur le fait qu'on puisse entendre quoi que ce soit ce que raconte Aristote, étudié en grec, et puis en plus, à une époque qui est quand même assez lointaine. Alors il est remarquable de voir que Cogève, lui, il a l'air de lire Aristote. Texte et de capter pas mal de trucs, puisque dans sa seconde introduction au système du savoir absolu, ce qu'on a publié chez Gallimard de Cogède sous le titre Le concept, le temps et le discours, c'est deux parties, deux chapitres. Un consacré à Platon et un consacré à Aristote. Et il explique dans ce livre ce que c'est qu'une introduction. Il explique même une chose assez amusante, peut-être, disant que c'est le titre, le meilleur titre d'un. La meilleure introduction pour un texte philosophique, c'est son titre. Et il cite Descartes qui aurait dit, il dit ça comme ça, Descartes aurait dit que. En philosophie, si on a lu pas mal de philosophie, c'est plus la peine de lire les livres de philosophie, il suffit de lire les titres. Parce que le titre, c'est non seulement une bonne introduction, mais même c'est un résumé assez pertinent. Et donc, si on lit le titre et qu'on est un peu au courant, on peut deviner tout ce qui est dans le bouquin. Alors, il fait tout un topo sur la notion d'introduction. Parce que lui, il explique pourquoi lui, Cogève, il fait trois introductions au système du savoir absolu de Hegel. Les trois introductions, elles sont publiées maintenant chez Gallimard, même en telle, peut-être pas les trois. La première, c'est celle qui s'appelle l'introduction à la lecture de Hegel, c'est très ancien, c'est que donc il est publié chez Gallimard, c'est le plus connu. C'est très important pour lire Lacan, parce que la préface que donne Cogève à ce livre, première introduction, c'est la traduction qu'il fait lui-même du chapitre 4 de Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit. C'est la servitude, la dialectique du maître et de l'esclave, traduit par Cogève. Vous voyez que Lacan s'en est fortement inspiré dans un texte qui s'appelle Le stade du miroir. Si vous lisez Le stade du miroir, si vous lisez cette préface à l'introduction à la lecture de Hegel, vous verrez que bien sûr que Lacan va déplacer les choses, puisqu'à la place de la la lutte de pur prestige, il va mettre en place le stade du miroir, la phase du miroir, qui est un instrument de doctrine qui permet d'articuler ce que Freud a. La première grande découverte de Freud, en 1914, c'est le narcissisme. Hein, pour introduire le narcissisme, c'est 1914. À l'époque de Lacan, les Américains croyaient que le moi, il était question du moi dans la psychanalyse, seulement de Freud, seulement à partir de la seconde topique, le moi et le ça. Ça fait rire Lacan, et puis le moi, Freud, il a commencé à en parler à partir de 1914. Moi, j'appelle ça le premier résultat obtenu par Freud à partir du moment où Freud a prononcé le nom qui est des fois une instance et des fois un problème de logique, le nom qu'il donne à cette chose qu'il s'appelle, il appelle l'inconscient. Bon, l'inconscient, c'est pas une hypothèse, mais c'est le désir. Ça, le désir de Freud, ça fait partie du désir de Freud. C'est pas une hypothèse du tout, c'est une assertion. Le désir est apophantique, il est pas modal. C'est pas ça pourrait être comme ça, comme si, non, c'est oui ou non. Donc Freud dit l'assertion inconscient. Bon. Mais l'inconscient, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ben, il va nous apprendre à lire, il va écrire trois ouvrages d'initiation à la lecture, la science des rêves, la psychopathologie de la vie quotidienne, et puis les mots d'esprit, le rapport avec l'inconscient. Donc là, moi je ne comprends pas que dans les instituts de psychanalyse, on n'enseigne pas, dans les organisations, les écoles, je sais pas, les associations. Les organisations professionnelles qui n'ont rien à voir avec la cure, parce que la cure elle est en dehors de ça, mais ceux qui sont analysants, ceux qui sont devenus analystes, ils fréquentent ces groupes. Moi je fais partie d'un groupe, d'une association, c'est la lettre lacanienne par exemple, et on y donne des conférences, on y fait des enseignements. C'est ce qu'on appelle la formation. La formation du psychanalyste, c'est pas ce qu'on essaye de nous vendre, l'idée de formation de psychologie clinique pour les psychothérapeutes. Ça, c'est une escroquerie. La formation, c'est les études freudiennes, les études de la clinique, c'est pas la cure. S'il s'agissait de clinique, c'est la clinique, c'est la cure. Bon. Et ça, ça se fait pas dans une association. Puisque la cure, c'est une institution à soi tout seul. C'est l'analysant qui ne le sait pas, il est naïf au départ. Il n'est pas très au courant de pourquoi il met le petit bout du petit bout du petit doigt, mais il rentre dans un truc qui est une machine infernale, qui s'appelle le langage. Et dans le langage, il y a le transfert, la répétition. Et donc, il y a plein de motifs à être superstitieux. Ça peut paraître maléfique. Bon, Freud, il va découvrir quelque chose en 1914. Il obtient un premier résultat fondamental, parce qu'il erre beaucoup, Freud. Il écrit tout son itinéraire qui est fait d'erreurs et du fait de se corriger, de redresser la barre. Il a cru à la séduction, d'avoir de la séduction. Il s'interroge sur, par exemple, avec le loup, il s'interrogera sur la scène primitive, le trauma. Tout ça, c'est des choses qu'il cogite. Comme il le dit lui-même, la clinique qu'il fait, il faut la refaire, de toute façon, dit Lacan, la clinique psychanalytique des névroses et des aberrations. Mais Freud, il dit bien, moi je fais ça parce que pour m'orienter dans ma pratique, j'ai besoin de mettre ça noir sur blanc. Pour toutes les indications techniques qu'il peut donner, Mais il aboutit à quelque chose en 1914, il écrit cette introduction au narcissisme, et ça, c'est plus Nash. Il dit que le mot narcissisme vient d'un certain Nash. Et le narcissisme de Nash, ça ressemble plutôt à l'auto-érotisme et à l'analyse, tu vois. C'est prendre son corps comme un objet sexuel, un objet sexuel, c'est un partenaire sexuel. Donc prendre son corps comme un partenaire sexuel, ça paraît un peu réalistique. Mais Freud, il va le déplacer complètement, puisque ça va aboutir à ce que Lacan va préciser avec le stade du miroir, c'est-à-dire qu'il s'agit de prendre son corps comme un objet. C'est la première phrase de Freud. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre son corps comme un objet? Qu'est-ce que ça veut dire prendre quelque chose comme un objet? Et qu'est-ce qui s'oppose? Pour comprendre ça, il faut opposer prendre son corps comme un objet, prendre quelque chose comme un objet, et puis être le sujet de quelque chose. Moi, je suis le sujet de mon corps, et je prends mon corps comme un objet. C'est deux choses qui s'opposent. Être sujet du corps, c'est être intrinsèque à son corps. Prendre son corps comme un objet, c'est l'adopter vis-à-vis de son propre corps, auquel on est contraint. C'est de le prendre d'une manière extrinsèque, comme un objet, on peut dire extérieur. Et c'est pour ça que Lacan invente ce petit appareil du miroir qui donne bien les deux aspects. Il y a un sujet d'un côté qui est intrinsèque à son corps, et dans le miroir on voit l'image de ce corps, et par conséquent, il se trouve dans une position extrinsèque par rapport à son corps grâce au miroir. Vous remarquerez qu'avec la voix, contrairement au regard, avec la voix, on n'est pas obligé d'employer un artifice. On est toujours narcissiquement extrêmement impliqué dans la voix. Par le fait qu'on parle intrinsèquement à son discours, le sujet est intrinsèque à sa voix. Il y a des gens qui croient que ça s'appelle la pensée. Je ne sais pas s'il y a des pensées, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il y a des langages. Et il y a des langues. Des langages parce qu'il y a des langues. Et ces gens, comment ça s'organise, la langue, les langues, la langue, une langue avec le corps, c'est toute la question qu'a découverte Freud. C'est qu'on ne sait pas bien ce que c'est que parler, on ne sait pas bien d'où ça vient, la langue dans le corps, la parole dans le corps, comme ensuite le corps se. Les peuples inventent des écritures, mais pour inventer une écriture, il faut déjà savoir lire. Donc comment ça se passe? Parler, quand on dit le corps, il est parasité par la parole, c'est rentré par les oreilles, et ça donne naissance à quelque chose qui s'appelle la lisibilité. Moi je tiens qu'avant qu'il y ait des lettres, il y a des traits lunaires, c'est le terme de Freud pour l'identification, mais on peut le reprendre plus généralement. Tout ce qui nous paraît lisible, je vous dis, lunaire, c'est un peu comme une caricature. Au lieu d'écrire un caractère comme le faisait la Bruyère, en langue, ça c'est écrit. Eh bien, une caricature, c'est un caractère qui est écrit aussi, mais qui n'est pas encore écrit dans une écriture constituée. Ce n'est pas une institution. Parce que pour qu'il y ait écriture constituée, pour qu'il y ait lettre, il faut qu'il y ait un groupe social, un lien social, un groupe, une multiplicité. Il n'y a pas d'écriture singulière. Il y a des paroles singulières, mais pas d'écriture singulière. Donc c'est là-dessus que patine un peu Lindenstein, qui dit qu'il n'y a pas de langue privée. Si, il y a la langue parlée privée, il y a des signifiants privés, parfaitement singuliers. Et puis des choses qui rentrent par les oreilles. On parle quand on la nourrice, ou la mère, ou le père, enfin la famille, les premiers qui parlent autour de l'enfance, ils peuvent lui coller des mots qui sont tout à fait privés. Mais avec le trauma, avec le malentendu des parents, il va se mettre à. La parole va devenir quelque chose qui va être lié à la lisibilité. Il se rend compte qu'il y a quelque chose de lisible, et ensuite on inventera le savoir. Donc la vérité du côté de la parole, c'est un peu confus et brouillon. Bien qu'on peut y mettre de l'ordre si on est décidé, puisque l'acte est un acte de parole, principalement pour la psychanalyse. On a vu, là, jeudi dernier, quelqu'un qui se prenait les pieds un peu là-dedans. Il y croit. croyait que les animaux avaient le langage et que les humains seuls étaient des sujets du langage. C'est eux, ils avaient la parole, c'était spécifié. Parce que l'acte, c'est un acte de parole. C'est vrai, l'énonciation caractérise l'acte dans la parole, et la parole caractérise l'acte. Et justement, il y a une fonction imaginaire du phallus, c'est la parole animale, la parole sexuelle, les postures, les cris, et puis il y a cette entrée dans le langage par la parole, par le malentendu des parents qui ne fait pas écrire immédiatement. Alors j'ai trouvé dans le séminaire d'identification, là, quand on dit explicitement que ce qui spécifie le langage, c'est l'écriture. Donc ça confirme que les animaux parlent, ils n'écrivent pas et ils ne lisent pas. Donc l'enfant, il va se mettre à apprendre à lire, et le moment où, après le trauma, il faut aussi l'incorporation, il faut aussi que justement un corps de langage, qu'on appelle un corps symbolique, rentre dans le corps propre pour passer ensuite à l'articulation de ce corps qui est deux corps avec la parole, la fonction phallique, qui fait que la fonction phallique, c'est la fonction imaginaire du phallus, mais qui va devenir, grâce au langage, le phallus symbolique. C'est là qu'on peut parler de vérité. On parle de vérité du côté de la parole et on parle de savoir. Quand Lacan, dans ce séminaire, parle de la leçon numéro 7 des noms du père, il dit bien le savoir, on ne s'est jamais posé la question qu'est-ce que c'est. Il dit le savoir, ça s'invente. Ben, vous remarquerez que si vous regardez ce que disent les anthropologues, c'est que l'écriture, ça s'invente. Il y a des peuples qui inventent l'écriture, il y en a qui n'ont pas inventé l'écriture. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans le langage, mais ils sont dans la parole et ils sont dans la lisibilité. C'est ça la pensée sauvage de l'histoire. Les mythes, les mythologies, c'est des caricatures de science. Ce sont des moyens mnémotechniques pour accumuler les expériences de génération en génération néolithique qui vont donner toutes les techniques de civilisation qu'on a connues jusqu'à la révolution industrielle. Alors qu'au contraire, nos techniques de civilisation, elles sont produites par l'écriture. L'écriture même mathématisée par les mathématiques. Depuis Newton, la révolution industrielle, elle s'est produite grâce à Newton. Le fait qu'il ait écrit sa formule, les ingénieurs qui n'étaient que des bricoleurs un petit peu plus géomètres que les gens du néolithique, parce qu'ils sont géomètres depuis les Grecs, ils pouvaient faire un peu d'algèbre depuis Descartes pour faire de la géométrie. Bon, l'algèbre et l'arithmétique viennent plutôt du côté des Indiens et des Arabes jusqu'à la Méditerranée, alors que la géométrie c'était plutôt l'affaire des Grecs. Donc tout ça va faire que ça va se transformer en écriture de plus en plus écrite, effectivement écrite, comme dans un lien social. D'ailleurs, il faut faire la différence entre le discours des mathématiciens, leur lien social, et leur écriture. Ils n'ont pas tous le même avis sur l'écriture, mais en général, ils savent lire. Ils sont d'accord sur le fait qu'il y a certains énoncés qui tiennent et qu'il y a des énoncés qui ne tiennent pas. Bien qu'on peut se poser plein de questions, si on regarde les manuscrits des mathématiciens assez anciens, même encore Leibniz fait des erreurs de calcul énormes, et c'est très intéressant de se rendre compte de comment ils ont fait d'ailleurs pendant tellement longtemps pour écrire sans avoir les moyens de faire ce qu'ils faisaient, et ils le faisaient quand même pas mal. Les développements limités des fonctions sinus trigonométriques et logarithmiques, des fonctions transcendantes, ils ont trouvé des restes, le reste de Maclaurin, le reste de Taylor. C'était pas mal fait du tout, mais ils faisaient ça au pif. Et c'est seulement Cantor qui a donné les moyens de savoir qu'est-ce qu'on fait là, de pouvoir même construire effectivement, dire les choses qu'on ne disait jamais avant, c'est-à-dire comment on construit cette écriture mathématique, ce que Lacan propose d'appeler des mathèmes. Ça, c'est Cantor. Alors, c'est pas mal. Moi, je pense qu'il y a un progrès dans l'invention de l'écriture qui va dans le sens de mettre à jour l'écriture effective principes et des lois d'écriture qui, pendant longtemps, ont d'abord été pratiquées par les mathématiciens d'une manière intuitive, comme ça, au pif. Donc moi, je suis parfaitement opposé à l'idée de ce que dit Madame Claudin-Vert quand elle dit que la logique mathématique moderne ne rend pas compte de la logique grecque. Elle se fout du monde. Elle se fout du monde, et ça, je peux vous le montrer. Je vous le montrerai, d'ailleurs, en quoi la logique mathématique moderne, grâce à des gens comme Frege et Peirce, rendre parfaitement compte de ce qui était encore que très intuitif dans la langue. C'était à peine écrit, c'était parlé dans la langue vernaculaire, en grec, par Aristote et les gens autour de lui, puisqu'ils ont rédigé cet organon en grec. Il n'y a pas beaucoup de formules mathématiques, mais... Alors justement, où est-ce que Aristote dérape? Parce que lui, il fait ça au pif. Bon. Et nous, grâce à Peirce et à Frege, on peut savoir, on peut très bien voir où il est. Alors moi, je vous propose de ne pas lire tout de l'interprétation, bien que si vous vouliez lire tout ce petit ouvrage, c'est la moitié de ce livre. De l'interprétation, c'est juste la deuxième partie. Hein. Ça commence au milieu. C'est pas très long, il y a 12 chapitres. Voilà, il y a 12 chapitres. Bon. Mais moi, je vous propose première approche du dérapage d'Aristote, je vous propose de lire le chapitre 10. Alors là, Tricot, il lui a donné un titre. Hein. Il n'y a pas toujours un titre. Aux belles lettres, il n'y a pas de titre. Ça s'appelle « Les oppositions dans les propositions de secundo adjacente » dans les propositions de tertio adjacente, à sujet fini ou indéfini. Bon, peu importe le titre, ça paraît assez compliqué. Le numéro 10, lisez le numéro 10, ça c'est son titre, ça commence comme ça, l'affirmation, vous allez le retrouver dans votre exemplaire de canon, l'affirmation exprime qu'une chose se rapporte à une certaine chose. Bon, ça c'est l'énoncé catégorique. Hein. Tous les Grecs sont des hommes, ou bien tous les hommes sont mortels. Hein, c'est bien rapporter une certaine chose. Hein? L'affirmation, elle exprime qu'une chose se rapporte à une certaine chose. La négation, ça exprimera qu'une chose, justement, ne se rapporte pas à une certaine chose. Hein? Les hommes ne sont pas mortels, c'est la négative. Vous voyez, ça dit le contraire de les hommes sont mortels. Vous voulez dire que mortel se rapporte à homme. Ça dit que le mortel ne se rapporte pas à homme. Bon. Ben c'est ça dont il va être question dans ce petit chapitre 10. Les exemples que prend Aristote là, c'est pas le hérisson. Hein. Parce que Lacan, il cite ce passage-là aussi dans la dernière leçon du séminaire d'identification. Donc, il dit que Aristote dérape dans la septième leçon. Les noms du père, ça c'est dans les années 70, mais il a dit depuis la dernière leçon d'identification que en quoi Aristote dérape. Aristote dérape, dit Lacan, c'est comme ça que je vais être sur la piste du dérapage en lisant ce chapitre 10. Il nous dit c'est parce qu'il a une telle conception des choses, logique d'Aristote, que pour lui, tout ce qui n'est pas hérisson est non hérisson. Vous allez voir, il faut faire des petits tableaux. C'est pas très compliqué, mais regardez. N'est pas hérisson. Je fais comme Aristote, je mets H pour hérisson. Porc épic. Et puis, tout ce qui n'est pas hérisson est non hérisson. Non porc épic. Voilà. Donc, ou bien vous niez le verbe, ou bien vous niez le concept prédicat. Tout ça, c'est fait sur un modèle qui est l'énoncé catégorique. Les énoncés catégoriques, vous avez S de X, c'est le sujet, concept de sujet, implique concept de prédicat. quel que soit x, s de x implique p de x. Alors vous avez la négative, c'est quel que soit x. Quel que soit x, l'universelle négative, c'est s de x implique non p de x. Ça s'écrit comme ça, non p de x. Ça, c'est écrit en mathématiques. Les types, ils vous disent formalisation parce que c'est des timides. Ils disent, c'est très nouveau. Vous savez, ça date du 19e siècle. On n'a pas encore très bien compris. Je pense que Lacan est le premier lecteur sérieux de toutes ces choses, hein. Aussi bien des modernes que des anciens. Lacan, à mon avis, survole le 20e siècle comme logicien. C'est un logicien. Et il fait le con. Parce qu'il est psychanalyste, alors vous savez, quand on est psychanalyste, il vaut mieux faire le con, parce que sinon vous n'avez pas de patience. Si vous êtes le plus grand logicien du siècle, ils vont tous fuir, ils ont peur que vous avez un psychanalyste qui serait un grand logicien, et un type très intelligent, très marrant et tout ça, c'est très dangereux, on ne va pas le faire analyser avec lui, parce qu'on peut penser qu'il va rendre ses patients fous. Il va penser tellement qu'il pensera pour eux. Penser pour quelqu'un, c'est rendre fou. C'est une des définitions de la folie. Donc, Lacan, il a très bien compris que si on veut faire le psychanalyste, c'est une très bonne chose de faire ça. Il faut faire le con. Et puis de l'autre côté, ça laisse beaucoup de temps pour travailler, parce que comme on passe beaucoup de temps assis dans un fauteuil à rien faire, apparemment, on peut travailler beaucoup. Donc, on peut consacrer une grande partie de sa vie à l'étude. Et du coup, ça fait Lacan. Les autres, ils ne font pas ça parce qu'ils n'étudient pas beaucoup. Il y en a même qui disent... Moi, j'ai entendu ça à l'école italienne, un type, il disait, en public, préfère. Il disait, oui, mais de toute façon, moi, quand je suis dans mon fauteuil, vous voyez, le mec était déjà assuré d'être à l'aise, il avait un fauteuil. Alors, quand je suis dans mon fauteuil, il disait, les signifiants que Lacan enseigne dans son séminaire, je m'en sors jamais, ça, je ne pense jamais. Sûrement, il n'est pas obligé. Lacan il n'a jamais voulu s'imposer de cette manière-là. Au contraire, Lacan, il était crétin. Il était idiot, lui aussi. Alors, il y en a plein qui se sont cru autorisés à faire. Ils disent je m'autorise. C'est comme les autoroutes, vous savez ce qu'on disait. Ils se risent en eux-mêmes, de soi-même, en soi. De manière égalière, il faut dire ça. C'est se riser en soi. Alors, je vous dis, je fais attention à ce mot d'autoriser, parce que dans autoriser, il y a tort. Hein, s'autoriser, c'est se faire du tort. S'autoriser, c'est se faire du tort de soi-même. C'est s'auto-autoriser. Ah oui, la névrose, c'est la structure du tort. Donc, moi, je pense que dans les types, vous savez, quand ces vieilles folles dans la psychanalyse, tous ces crétins, ils sont là en train de s'émoustiller comme ça. Là. Oh, Lacan a dit que le psychanalyste s'autorise que lui-même, alors ça va être la galgie. Tout le monde va pouvoir décider d'être psychanalyste, on ne va plus pouvoir les contrôler, on ne va plus pouvoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire, il y a une histoire du contrôle, du training. C'est même Reich à Berlin qui a inventé le premier le training, vous voyez. Oui, où il a fini en mettant de la barbaque sur des caisses en bois aux États-Unis, il a fini en tôle. Bon, donc, comment ?
L'orgasme.
Oui, oui.
Il y avait un orgasme.
Oui, oui, mais lui, il croyait à l'orgasme. Pas à l'organe, mais à l'orgasme. Et c'était organique. Donc, de toute façon, ces histoires de formation, tout ça, c'est très, pour l'instant, c'est encore très, très mal branché, c'est-à-dire que c'est très bien engagé, voilà. Mal engagé, parce que c'est tout nouveau et qu'il faut réfléchir un peu à tout ça. Il faudrait pouvoir en parler sérieusement, c'est-à-dire sans se prendre au sérieux, franchement, et arrêter de mentir, et de raconter des histoires et de faire semblant, comme je dis. Bien sûr qu'on fait tous semblant, d'ailleurs on est des semblants, mais quand même, on n'est pas autant des semblants que les Japonais, parce que sinon on va pas très loin dans son analyse. Si on va très loin dans son analyse, on est un semblant comme un Japonais, c'est-à-dire que ça se voit. On est à peu près transparent. Mais le problème, qu'on soit des semblants, mais il y a des semblants de tas de sortes. Il y a des tas de types de semblants. Il y a des gens qui croient que faire semblant, c'est paraître. Vous voyez, parce qu'en espagnol, ils disent parricido, c'est faire semblant. C'est pareil. C'est faire semblant. C'est pas paraître. En français, paraître, c'est le talent. On paraît en société pour se faire reconnaître. Plaire à son époque, c'est ça paraître. C'est une façon de faire semblant aussi. Il y a des gens qui ont du talent, ils y arrivent très bien, mais il y a plein d'autres façons de faire du semblant. Et en particulier, le signifiant, c'est du semblant aussi. Seulement, justement, c'est très difficile parce que ça s'enchaîne de telle manière que c'est pas du tout évident de se débrouiller avec la manière dont ces semblants s'enchaînent. Et la logique, c'est une façon de... Dans la grammaire, vous voyez, dans la grammaire, la logique, c'est commencer à se... à écrire des choses comme ça. Vous avez un autre type d'énoncé catégorique, c'est les particuliers, et ça s'écrit comme ça. S de X et P de X. Il existe X, S de X, et c'est la conjonction non P de X. Ça, c'est l'affirmatif, ça, c'est le négatif. Alors, la première chose qui devrait vous sauter aux yeux, c'est que le verbe être, la copule, ce qu'on appelle la copule, eh bien, dans les universels, n'est pas rendu de la même manière que dans les particulières. Avec le canteur universel, c'est pas, on n'écrit pas la copule de la même manière qu'avec l'existentiel, c'est-à-dire les particulières, dont, grâce à Frey, à Peirce, on sait maintenant, grâce à Frege et à Peirce, on sait que les particulières sont des existentielles. Oui, parce que avant, on ne le savait pas. Le premier qui a dit que l'existence n'était pas un prédicat, que l'existence ne venait pas là, ne venait pas à la fois du prédicat, affirmatif ou négatif, le premier qui a dit ça, c'est Kant, pour contredire l'argument ontologique de Saint Anselme. Hein, puisque Saint Anselme, il disait Dieu. Dieu existe, je vais vous le prouver, parce que si Dieu, il est Dieu, il a tous les prédicats. Il n'y en a pas un qui peut lui faire défaut, puisqu'il est parfait. Alors du coup, il y a un prédicat qui s'appelle l'existence. Dieu existe, c'est un prédicat. Et du coup, donc, comme il ne peut pas lui en manquer un, il ne lui manque pas l'existence, donc Dieu existe. Argument ontologique. Alors Kant, il a commencé à dire, oui, mais l'existence, c'est pas un prédicat. Il n'a pas dit ce que c'était. Et c'est ça qui est étonnant. Vous voyez, voilà, c'est comme ça les mathématiques. Il a commencé à dire ça au XVIIIe siècle, Kant, au pif. D'où lui vient cette intuition qui lui permet de cracher ça, que l'existence, alors que tout le monde était plutôt intimidé par l'argument de Saint-Anselme, on se disait, ben alors... Vous voyez comment ça fonctionne le savoir, c'est que à partir de la parole où c'est l'embrouille, il y a des choses qui commencent à être lisibles pour les sujets, et puis ils vont se mettre à les écrire. Et ça commence avec Aristote, ça passe par Kant, et puis ça finit avec Peirce, Frege et Boulle. Bon. Et puis ensuite, bon, les autres, ensuite, ils vont découvrir, grâce à cette écriture, ils vont découvrir au XXe siècle un certain nombre de problèmes, il y a une crise. La crise que nous vivons aujourd'hui, c'est toujours la même. Hein. C'est toujours cette incapacité des économistes, des militaires, des politiques, des psychanalystes, tout ça, de lire Lacan et Freud. Donc on est dans la crise, puisque, regardez, Michel Rocard l'a écrit dans Le Monde la semaine dernière. Il a dit, maintenant, depuis la crise, tout le monde avance au pif. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la crise ? Vous savez ce que c'est la crise ? C'est la crise de l'incomplétude. Les Occidentais sont malades de la complétude. Ils croyaient à la totalité. C'est vrai que Hegel a montré que ce n'était pas possible, la totalité du savoir, le système total. Cogène, il a l'air de dire que c'est quand même lui, il fait trois introductions au système du savoir absolu. Le système du savoir, le système de l'écriture totale. Seulement, plus le progrès de l'écriture avance, plus on s'aperçoit que les intuitions qu'avaient les premiers, là, qui faisaient ça depuis la pensée sauvage, les Grecs, la patristique romaine, les théologiens, ensuite vous avez les philosophes classiques, les philosophes ensuite des Lumières, vous voyez, tous ces gens, ils ont peaufiné le texte, ils l'ont peaufiné et ils arrivent, à un moment donné, Hegel, il arrive à faire son expérience définitive, totale, et il s'aperçoit que il a failli devenir fou. Il écrit dans une très belle lettre à un correspondant, il a eu vraiment peur. Ça plaisait beaucoup à Georges Bataille, qui s'est dit, mais même Hegel, il a eu une expérience subjective. Lui qui paraît être en granit, parce qu'il est hyper dogmatisé. Il n'était pas du tout dogmatique. Il n'était pas dogmatique du tout. Lisez sa correspondance, vous verrez. Mais Kojève l'a dédogmatisé. Voilà. Bon, mais seulement, voilà, depuis, les logiciens ont pu commencer à travailler plus. Hegel, il a produit une coupure comme Saint Thomas d'Aquin énorme. Et donc après Hegel, vous voyez Marx, Freud, les mathématiques, vous voyez comment la logique mathématique qui va s'envoler comme ça de manière exponentielle. Vous allez apparaître la topologie, c'est plus l'analyse situs de Leibniz, hein. C'est plus la géométrie projective de Monge, c'est le mélange de tout ça, c'est plus la géométrie synthétique de. Comment il s'appelait, des arts. C'est ces trois courants qui vont se réunir pour donner avec Poincaré la topologie. Bon. C'est Listing, pourquoi le premier mot topologie. Et puis vous avez la théorie des ensembles, avec Cantor, donc vous avez comme ça vous avez un progrès de l'écriture et des choses qui ne sont plus du tout de la philosophie. Les philosophes, ils n'inventaient pas Marx, il a inventé un parti international, un parti communiste ouvrier international, parce qu'il avait l'idée que le capital, ça pourrait peut-être donner une révolution. Le maître de la commune, il leur a dit non, il n'y allait pas, vous allez vous faire bouffer. Ils se sont fait bouffer. Il a dit si vous touchez à la banque, vous allez voir, ils vont vous tuer. Hop, ils les ont foutus contre un mur, ils vont tous fusiller, mur des fédérés au Père Lachaise. Et Lénine, ensuite, il a recommencé le coup, passage à l'acte. Il dansait dans la neige, Lénine, quand la révolution d'octobre a dépassé le temps de la commune. Parce qu'il s'attendait du jour au lendemain à se faire flinguer. Bon, lui, il est mort là, et puis la révolution de Lénine, elle a été flinguée par Staline. Bon, donc, le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe en même temps que tout ça? Après Marx, il y a la psychanalyse. La psychanalyse, c'est un progrès énorme parce que Freud se met à écrire des choses qu'on n'avait jamais écrites. Il s'aperçoit justement qu'en faisant semblant, avec la littérature, on peut dire beaucoup plus de choses qu'on peut le dire en public. Alors il surfe sur le fait que les médecins, ils peuvent dire des trucs. Dans Molière, ils le disent en latin, mais Freud, il le dit en allemand. Et il dit beaucoup plus de choses. Donc Cantor dit aussi beaucoup plus de choses sur la manière dont sont faites les mathématiques. C'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre d'étudier Cantor. Même Lacan, il dit qu'à partir de Cantor, il n'y a plus d'initiation possible sur la Terre. C'est fini les initiations. Vous savez, les métiers, autrefois, on apprenait ça avec un maître dans un atelier où il y avait un petit cours de passe-passe. Il fallait se faire pincer les fesses un peu en passant comme ça parce que ça aide un peu. Il y avait toujours un lien avec le sexe, le savoir et le sexe. Était toujours lié. Et Cantor, il a rompu ce lien. Il n'y a plus d'initiation. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire toucher les fesses ou le pied. Il y en a qui ont des pratiques très intéressantes. Ou les oreilles. Je ne sais pas où ça se passe, mais vous n'êtes plus obligé de vous faire traficoter le corps pour apprendre. Oui, mais ça existe toujours. Mais seulement le problème, c'est une survivance. C'est un symptôme. C'est un symptôme de notre époque. Parce que le symptôme de notre époque, justement, c'est qu'il n'y a plus ça, mais qu'il n'y a pas de savoir absolu pour autant. Et qu'au contraire, plus on avance, plus on découvre que c'est incomplet. Alors ça fait crise. Et la crise de la civilisation occidentale, qui est en train de pourrir le monde entier, parce que c'est des irresponsables. Les mecs qui jouent aux apprentis sorciers, ils ne savent pas ce qu'il faut. Ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? Des bombes pour être plus puissants. C'est toujours la fonction phallique, la fonction imaginaire du phallus. Du phallus, la paramilitaire, ça. C'est des trucs éthologiques. Il n'y a pas d'institution où, regardez, les institutions, c'est toujours comme les vols de mouettes. Freud en a fait la théorie, ça s'appelle les foules. Le moi, les foules, c'est des modèles éthologiques, vous voyez. Il y a un leader, et puis hop, on suit. Bon. Donc on est quand même des sous-développés politiquement, on est des sous-développés linguistiquement. Et par contre, on a fait des progrès d'écriture extraordinaires pour arriver à s'apercevoir que la dernière grande découverte, c'est pour ça que j'ai parlé d'Indica, c'est en 96, Indica, il a démontré que Frege, jusqu'à Quine, se trompait, et qu'il y avait un premier théorème de Gödel qui prétendait démontrer que le système d'écriture des prédicats, de la quantification du premier ordre, était un système d'écriture qui était complet, qui était consistant et complet. Donc Quine, il a fait l'américain, il a fait de l'isolationnisme. Il a dit interdit en Occident, chez les Occidentaux, de faire des logiques exotiques. Pas d'autre logique que la logique canonique classique de quoi de Tarski, parce que c'est lui qui l'appelait comme ça. Canonique, ça venait à la place de l'organon, ça venait de Kant, mais Tarski reprend le mot canonique. Hyper dogmatique, pas le droit de faire des logiques exotiques. Alors il y a eu des logiques intuitionnistes, il y a des gens qui font des logiques modales, ça n'empêche pas, parce que c'est pas parce qu'il y a un décret de Quine. Mais ça a quand même créé un blocage assez extraordinaire. C'est que quand même personne dans le monde scientifique prenait au sérieux les logiques qui n'étaient pas la logique canonique classique, et il pensait qu'elle était consistante et complète. Donc Indica en 96 a montré, grâce à un modèle, grâce à ses jeux théorétiques, ce qu'il avait inventé avec Kripke pour faire la sémantique d'une logique modale, il s'en est servi pour la logique classique, et hop, là il a montré qu'il y avait deux situations, deux modèles qu'on ne savait pas distinguer dans l'écriture classique. Il fallait rajouter un caractère. Il faut rajouter une lettre. Parce qu'on ne peut pas. La logique classique, elle va écrire les deux situations qui sont très différentes, elle va les écrire de la même manière, elle n'est pas capable de les distinguer. Donc, incomplétude, Gödel avait cru démontrer la complétude dans son premier théorème, avant de montrer l'incomplétude de l'arithmétique et des mathématiques, il a d'abord démontré, il a cru démontrer la complétude, démonstration sémantique de la complétude de la logique canonique classique, c'est-à-dire de la vérifonctionnalité, puis des développements à partir de ça. Pas seulement ça c'est la syllogistique d'Aristote, mais tout le développement avec des prédicats polyaniques. Vous pouvez mettre des fonctions propositionnelles au sens de Frege avec plusieurs variables. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, là j'en ai mis 4. Bon. Il faut au moins en écrire des relations comme ça, il faut en écrire avec au moins deux variables pour, par exemple, regarder l'appartenance. Pour comprendre les choses de la théorie des ensembles, il faut pouvoir écrire ça. J'ai écrit en écriture polonaise, ça c'est un prédicat de deux places. Donc on ne peut pas se contenter d'Aristote pour faire la théorie des ensembles. La théorie des ensembles, ça commence avec ça. Mais Quine, c'est le seul qui a dit la première façon sérieuse de faire une démarcation entre la logique et les mathématiques. Il a dit, ce qui se passe là, c'est que ça, c'est un prédicat singulier. Et là, à partir du moment où on introduit un prédicat singulier, il faut rajouter des axiomes pour dire comment on s'en sert. Et ces axiomes, ils risquent d'introduire l'incomplétude. C'est ce qui se passe, d'ailleurs, Gödel le montre. Si vous introduisez ça plus les axiomes, vous allez faire les ordinaux, c'est l'axiomatisation de Peano pour les nombres. Et vous allez pouvoir montrer que vous aurez forcément un théorème indémontrable. Ça, c'est Gödel. Mais Quine, il vient 10 ans après Gödel, et c'est le premier à pouvoir tirer les conséquences de Gödel de manière aussi nette et claire. Et il dit la différence entre la logique et les mathématiques, c'est le fait d'introduire un caractère particulier. À la place de P, de S, vous voyez, si je prends des exemples comme le hérisson, il faut que je dise qu'est-ce que c'est que le hérisson. Donc je suis obligé de donner des définitions supplémentaires. Je ne suis plus en logique, je suis en éthologie si je parle des hérissons. Si je parle des ensembles, je ne suis plus en logique, je suis en théorie des ensembles, je suis en mathématiques.
Et il y a un prédicat qui les emmerde tous, qui est au bord entre la logique, hein, et les maths. C'est le signe d'égalité. Enfin, lui, il y a des gens qui font des calculs, des prédicats sans le signe d'égalité, d'autres avec le signe d'égalité. Parce que lui aussi, il faut m'ajouter des axiomes. Lui, c'est toujours les mêmes axiomes qu'on ajoute. Hein. Le signe égal, c'est qu'il est aussi binaire. C'est x égale y. Hein, ça a la forme égale xy. La relation égale entre x et y. Alors, quels axiomes on lui ajoute ? Les axiomes, on dit, bon, c'est les axiomes de la relation d'équivalence. Réflexivité, transitivité, ça c'est en préor, plus la symétrie. Et avec ça, vous pouvez introduire ce signe dans l'écriture. Mais alors le problème, est-ce que vous êtes passé de la logique dans les maths en introduisant ça ou pas ? Quoi, il dit, voilà, c'est là qu'il y a de la mouvance, vous voyez ? C'est là que ça frite un peu entre logique et mathématique. Parce que dès qu'on est entouré des ensembles, Gödel a montré que c'était incomplet. Et lui, Poil, il croyait que c'était complet. Ben finalement, ce que montre Zintika en 1996, il le publie dans un livre qui s'appelle Les Principia Mathematica, les principes des mathématiques revisités. C'est traduit en français depuis 2007. Vous pouvez l'acheter chez Vrin. Moi, je vous conseille, hein, vous avez des pages sur la connerie des informaticiens, vous allez en lire, vous allez voir, il y a des belles pages qui montrent quel est l'impact de Gödel. C'est très très bien écrit et très très judicieusement expliqué. L'auteur, il s'appelle Intika. Alors je vous l'écris. Bon, celui qui va. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Quine. Quine, il est excellent, il se trompe. Vous avez Intika. Alors c'est 2T, c'est un, non, Intika c'est 1T et 2K ou 2T
et 1T et 2K.
2T et 2K.
Non, 1T et 2K.
1T et 2K, c'est ça. Intika. Là quand il faisait remarquer qu'il s'appelait Jaco.
2K.
Oui, et Jaco comme lui, Jacques. Ah. Il dit là quand il dit les Jacques, ils sont vachement bien. Les grands logiciens du XXe siècle s'appellent Jacques. Bon. Alors, donc, ça c'est 1996. Hein. 1996, c'est la publication, c'était déjà connu dans les milieux spécialisés, mais la publication de son livre, il propose lui de faire une logique exotique. Il l'appelle une logique amicale. Il dit que la logique occidentale, la logique classique, canonique classique, qui remonte, qui a généralisé Aristote et qui est devenue une arme de guerre, puisque c'est avec ça qu'on va fabriquer des bombes atomiques. Donc, lui, il propose une logique amicale. C'est sympa. Moi, je propose de faire une logique modifiée. Je suis de son avis, il faut juste ajouter un caractère. Et avec Freud, il suffit d'ajouter une négation. Mais pour que ce soit intéressant d'ajouter une négation, vous voyez bien qu'il faut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour nier quelque chose ? Alors vous voyez, on apprend des choses extraordinaires quand on apprend l'écriture contemporaine aujourd'hui, de ce qu'on peut écrire. On dit moins de bêtises que le professeur Claude Imbert, parce que d'abord, regardez, il n'y a pas un seul, moi je ne connais pas, si vous trouvez quelqu'un qui nous écrit quelque chose en ontologie, de l'ontologie, hein, à propos du verbe être et de la copule qui s'écrit de deux manières différentes selon que c'est universel ou existentiel, ça m'étonne que c'est échappé à tout le monde. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû écrire des trucs là-dessus. À Louvain, la faculté catholique de Louvain, il y a des très bons logiciens. Hein. Avec guitare, on en a trouvé un très très bon. Guitare s'en est servi pour montrer les relations qu'il y avait entre Galois et Boulle et Galois. C'est une logique mobile de guitare. C'est un monsieur qui s'appelait Grosjean et qui écrivait dans une revue de théologie qui s'appelle Logique et Analyse. Vous voyez, donc à Louvain, ils sont sérieux quand même. Hein. Bon. Il est catholique. Alors il est un peu timide, M. Grosjean, donc guitare, lui, il a mis le paquet, parce qu'il connaît très très bien Galois. Donc il y a des petites maladresses. Donc, ça se voit très vite aussi, tout ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire semblant de la même manière. C'est aussi du semblant que le reste. Hein. Bah, c'est du semblant, puisque regardez, c'est du semblant, puisque si vous ne connaissez pas tout ça, vous rien du tout. Donc c'est parfaitement semblant. C'est ce que ne comprennent pas les crétins comme Sarkozy. Vous savez, c'est pas parce qu'on peut déchirer un papier que ce qui est écrit sur le papier, ça vaut rien. Hein, on peut s'asseoir. On peut s'asseoir dessus. Aujourd'hui, on s'assied puisqu'on s'assied même sur le savoir dans la psychanalyse.
Hein, c'est les assises.
On a fait l'année dernière les assises. Assises, c'est pas les assises, c'est assises du savoir de la psychanalyse. Moi, je suis allé parce qu'ils m'avaient invité. Ils m'ont envoyé un email pour me dire venez. On vous a pas invité parce que vous êtes vapro. Là, on n'invite pas les vapro, mais venez quand même. Là, ils m'ont fait le coup aussi en Belgique. Le prochain week-end, je vais en Belgique. Ils ont organisé un colloque, un week-end de travail. C'est un peu discret. C'est côté Ali, côté de la farine. Là. Ils ont organisé un colloque. C'est est-ce que c'est la parole qui nécessite la topologie ? Bon, mais ils n'ont pas invité le vapro parce qu'on ne l'invite pas. Mais par contre, ils m'ont invité quand même. Mais pas comme orateur. Et c'est le chef qui m'a téléphoné, qui m'a écrit, qui m'a dit mais viens, on compte absolument sur toi, mais ils m'ont pas invité. Les autres, alors il y a le spécialiste de l'Ali, là, de la farine, il y a Darmon. Darmon va faire un topo, c'est un personnage important. Moi je lui ai fait la course des chefs quand il était petit, alors je connais bien. Bon, Belmont m'avait demandé d'être à la tribune, modérateur, la première fois que le petit Darmon venait parler des chirurgies, parce qu'il est médecin, lui.
Ouais.
La topologie, ça l'a fasciné, parce qu'on y parlait de chirurgie. Chirurgie, ça veut dire qu'il faut mettre les mains.
Chirurgie, des yeux.
Oui, il y avait de la chirurgie en général, en topologie, il y a de la chirurgie. Bon, c'est des analogies, ça, c'est pas ça qui est intéressant. Bon. De toute façon, on va voir ce qu'il nous raconte. Il y a lui, il y a Centenaire, c'est notre camarade Centenaire, Christian. Il est invité parce qu'il est belge, normal. Mais lui, il va parler parce qu'il est président de l'école Sigmund Freud.
Yes.
Donc il va aussi parler. Donc moi, et c'est extraordinaire. Donc c'est fou, hein, le coup actuellement. Le dernier Lacan, ça marche fort. Hein, vous avez vu, j'ai même reçu de Tel Aviv un email qui m'invite. Alors, formule géniale, l'email. Un type qui me dit voilà, j'organise un colloque à Tel Aviv sur le juif au carrefour de l'horizon du point I, du point R et du point S dans le crosscard dont parle Lacan. Bon, il se trompe un peu, c'est les lignes d'horizon, c'est pas des points, mais enfin, les lignes de fuite. Et alors il me dit écoutez, vous, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous en pensez de ce qu'écrit Lacan ? Ça paraît très énigmatique. Il m'écrit ça. Et nous organisons une journée sur cette question, là, la proposition du 6 octobre 1967. On organise un truc dans le cadre de l'université populaire Jacques Lacan, qu'a créé M. Miller, qui m'a demandé d'organiser ça. Alors, est-ce que vous pourriez me donner votre avis là-dessus ? Et puis, l'invité principal, c'est machin, il s'appelle Claude sur Saint-Luc de Bordeaux, qui était formé à Strasbourg. Je le connais bien, Claude. Bon, alors, c'est l'invité. Bon, on a invité Claude pour cette journée d'études à Tel Aviv, tout ça. Et vous êtes cordialement invité. Donc, c'est très marrant, il me dit, on a invité un tel, et vous êtes cordialement invité, mais il ne m'invite pas. Alors, moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, bon, est-ce que vous payez un billet d'avion pour moi et ma femme ? Parce que nous sommes deux. Et puis comme elle est juive et qu'elle est déjà allée en Israël, mais elle aime bien y aller. Moi, je ne suis jamais allé, je veux bien, mais le problème, c'est que... Est-ce que alors, vous m'invitez ou vous ne m'invitez pas ? C'est quand même extraordinaire. C'est quand même terrible d'être tabou. Hein. C'est moi qui suis tabou. Mm-hmm. On ne peut pas me toucher, vous savez. Faites attention, parce que si vous me touchez, ça peut, vous pouvez attraper la vérole. Ben oui, vous verrez, vous savez pas, écoutez, vous ne courez pas ce risque-là. Je suis tabou. Donc c'est comme ça. Et alors, à Rouen, c'est pareil. À Rouen, on passe des détails. Donc, partout, ils sont en train de faire. À Rouen, c'est la thèse plutôt du meunier maintenant. C'est pas la farine, vous voyez, c'est plutôt le meunier. Le Meunier, la thèse, c'est qu'il avait fait un grand colloque à Royaumont sur les mathématiques et la psychanalyse. Conclusion des résultats des courses, hein, le grand exposé du maître, c'était Le rêve de Lacan. Les mathématiques, c'est le rêve de Lacan. Alors maintenant, ils font un colloque sur Lacan et les mathématiques. C'est plus la psychanalyse et les mathématiques, c'est Lacan et les mathématiques. Alors moi, j'ai dit non, moi, je ne de... parle pas de Lacan et les mathématiques. Lacan et les mathématiques, Lacan, il va faire ce qu'il veut, il fait des mathématiques, là. Mais la mathématique, c'est pas une lubie de Lacan, c'est pas un rêve de Lacan. Les mathématiques, ça fait partie de l'écriture, et je ne vois pas quelque chose qui s'écrit qui n'intéresse pas la psychanalyse. D'ailleurs, quelque chose qui se dit aussi, je vois pas pourquoi le fait de parler une langue, le fait d'écrire une langue, ou d'écrire dans le contexte du langage, même si c'est pas une langue, ça c'est pas une langue. Hein. Vous voyez, ça c'est dans la langue, et puis ça c'est pas une langue. Et déjà, Aristote, il avait commencé à mettre une lettre à la place de hérisson. H. Hein. Kazimich, il dit, la logique d'Aristote, elle est formelle, et la logique moderne, elle est formalisée. Il se gargarise avec ça. Parce qu'ils n'osent pas dire qu'elle est mathématique. Parce que les mathématiques, ils gardent ça pour le nombre et la géométrie. C'est quand même des intégristes, hein, tous ces gens-là. Ils ont beau être... Il y a des génies, il y a des mecs qui ont fait des travaux en logique et en mathématiques magnifiques. Mais c'est quand même... Il faut que vous arriviez à lire ces gens-là en voyant en quoi ils sont complètement ringards, comme les psychanalystes, d'ailleurs. Non, c'est très intéressant à lire. Bon, pas tout. Parce qu'il y a quand même... Dans la psychanalyse, il y en a quand même pas mal qui délirent. Mais il faut les lire quand même. Et les logiciens, mais lisez les logiciens en vous. Au lieu de croire que vous lisez un traité d'art total, de savoir total et absolu, hein, lisez-les comme des couillons. Vous allez voir, ils sont tous en train de dire des bêtises et faire. Vous voyez, il faut 96 pour que Yitika arrive à nous sortir du blocage qu'avait créé Quine. Quine, lui, il avait décrété pas de logique. La logique canonique classique, elle est consistante et complète, c'est le système le plus simple et le plus élégant. Hein? Pas d'autre. Isolationnisme américain, vous voyez, c'est le genre président Wilson. Freud l'a écrit là-dessus. Hein? Vous voyez, on reste dans nos frontières. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a des mecs qui ont envoyé deux avions sur les tours de New York, et Quine, il en est mort juste la Noël après, vous voyez. Il est mort le 24 décembre, Quine, 2001, juste après que les tours se soient cassées la gueule. Les tours qui se cassent la gueule, c'est la fin du règne de Quine. Quine, c'était quelqu'un qui disait sanctuaire, protectionnisme et isolationnisme. Si on reste bien enfermé dans notre isolationnisme, les autres, ils ont qu'à se démerder, les sauvages, les indiens, les indiens, on les a un peu tués aussi. Bon, mais le problème, c'est que, parce que c'est un peu hypocrite comme attitude, mais le problème, c'est que c'est ça l'isolationnisme. Et depuis 50, depuis les années 50, on est dans cette isolationnisme. Et puis alors, Chomsky il en a rajouté, il a même rétabli dans leurs droits, c'est nié, c'est sot, c'est probablement du cercle de Vienne. Vous savez, le cercle de Vienne, c'est Popper, Hayek, tous ces gens qu'on appelle les libéraux, là, le néolibéralisme. Mais tous ces gens du cercle de Vienne, anticommunistes jusqu'à la moelle, anti-freudiens, bon. Moi je ne suis pas du tout communiste, je ne suis pas compagnon de route, hein. Mais il faut quand même dire ce que c'est, il faut quand même dire les choses. Écoutez, le texte de Marx, jusqu'à preuve du contraire, à part les Golden Boys aujourd'hui, il s'en sert pour faire les cons, pour être complètement irresponsable. La théorie de Marx, qui est formidable, vous avez qu'à lire Lévi-Strauss pour vous en rendre compte, un petit peu Lacan, comment, mais Lacan c'est plus difficile que Lévi-Strauss. Lévi-Strauss c'est déjà pas facile. Mais Lévi-Strauss il dit des choses quand même extrêmement formidables sur Marx. Et puis rendez-vous compte, Lacan il vous donne une indication, et puis vous ne comprenez rien à tout ça si vous n'avez pas lu Bentham. Hein? Bentham, c'est l'utilitariste. L'utilitariste, ça servait de doctrine, de justification du terrorisme qui s'appelait le capitalisme sauvage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez qu'à lire Dickens pour voir comment il traitait les enfants, les femmes et tout ça. Puis vous pouvez aussi lire un auteur que je vous conseille absolument sur la révolution industrielle et sa violence en Angleterre. Lisez Lawrence. Lisez Lady Chatterley et L'homme des bois. Il y a trois versions de l'amant de Lady Chatterley. Bon, ma grand-mère, elle avait ça comme livre de chevet parce que c'était un livre un peu de cul. Alors, ma grand-mère, elle s'est émancipée avec l'amant des éducateurs et le tourisme merveilleux.